Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 2 décembre 2025 du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. La source du jour nous offre une photographie assez fascinante de l'actualité de l'intelligence artificielle. Et pour être tout à fait honnête, c'est une image presque schizophrène. D'un côté, on lit des comptes rendus de conférences très sérieuses sur l'éthique, la gouvernance, et juste en dessous, on clique sur des titres qui parlent de licenciements, de panique économique et même de mensonges à grande échelle. Notre mission aujourd'hui, ça va être d'essayer de comprendre ce grand écart, de naviguer un peu entre la façade officielle et la réalité, disons, plus chaotique qui bouillonne juste derrière.
C'est exactement ça. Cette journée du 2 décembre est un véritable microcosme de l'état actuel de l'IA. On a d'un côté un discours public, institutionnel, qui cherche désespérément à construire un cadre, à mettre des mots comme responsable et éthique un peu partout. Et de l'autre, la réalité du terrain, qui est une course effrénée, une disruption brutale, où la compétition et l'impact social concret priment sur tout le reste. Ces deux mondes ne font pas que coexister en fait, ils sont en collision permanente.
Alors, explorons cette collision. Si on regarde la source, la première chose qui saute aux yeux, c'est cette façade très officielle, très propre sur elle. On a l'impression d'assister à une grande messe de l'IA responsable. On parle de la deuxième matinée de la data à Brest, d'un colloque IA et société à Paris. Les mots-clés sont toujours les mêmes, gouvernance, qualité des données, IA performante et éthique. Ça sonne bien, mais est-ce que ça a un impact réel?
C'est la grande question, mais avant même de parler d'impact, il faut noter le changement. Il y a quelques années à peine, ces conférences auraient été purement techniques, réservées aux ingénieurs. Aujourd'hui, les termes « responsable », « éthique », « sociétal », ils sont au centre. En fait, ça montre qu'on a tous compris un truc. L'IA, c'est plus l'affaire de trois chercheurs dans un laboratoire. C'est devenu un sujet de société qui nous concerne tous et il faut que tout le monde s'en mêle. Les chercheurs, les entreprises, le secteur public.
Reprendre la main ou juste donner l'impression de le faire? Parce qu'on peut se demander si ces colloques ont un réel pouvoir quand, en même temps, les géants de la tech déploient des modèles à une vitesse folle sans attendre l'avis de personne. C'est pas juste une façon de se donner bonne conscience.
C'est un scepticisme légitime. On peut voir ça comme une tentative de la société civile et des institutions de reprendre le contrôle d'un récit qui leur a totalement échappé. Un récit qui a longtemps été exclusivement dicté par la Silicon Valley.
Et est-ce que ça marche?
Pas encore. Probablement. Mais le fait que ce dialogue existe, qu'il soit public et institutionnalisé, c'est déjà une première étape. Ça crée un point de pression, un vocabulaire commun pour critiquer ou orienter les développements futurs. Sans ça, il n'y a même pas de débat possible, quoi.
D'accord. Et ce débat, il dépasse d'ailleurs les frontières françaises. La source met en avant les discussions au niveau européen, notamment autour de l'AI Act, cette grande loi sur l'intelligence artificielle. On y parle d'interdire des pratiques qui font assez froid dans le dos, comme la surveillance biométrique de masse ou la reconnaissance des émotions. Mais là où ça devient vraiment tendu, c'est quand on aborde le dialogue avec les États-Unis.
Absolument, parce qu'on touche à deux philosophies quasi opposées. D'un côté, on a l'Europe qui se positionne en championne de la régulation. Son approche, c'est de dire « avant tout, protégeons les citoyens et nos valeurs démocratiques ». Elle veut définir des lignes rouges claires, surtout pour les IA jugées à haut risque, comme celles utilisées dans la justice ou le recrutement. C'est une approche qui priorise la prévention des risques.
Et en face, les États-Unis, ils ne veulent pas de règles du tout.
C'est pas si simple. Leur approche est différente. Plutôt que de partir d'une régulation par le risque, ils mettent en avant d'autres concepts. Les modèles open source, c'est-à-dire ouverts et accessibles à tous, la sobriété énergétique, pour répondre à la critique de l'impact écologique de l'IA, et la transparence des systèmes. Ce n'est pas qu'ils sont contre la sécurité, mais leur priorité, c'est de ne pas freiner l'innovation. Ils craignent qu'une régulation trop stricte, à l'européenne, ne tue dans l'œuf leur avance technologique.
Donc on se dirige vers une sorte de guerre froide réglementaire, un bloc européen très strict et un bloc américain plus libéral, avec chacun ses propres technologies, ses standards.
C'est le grand risque. On pourrait assister à une fragmentation mondiale, où une IA développée aux États-Unis ne serait pas légale en Europe et inversement. La question fascinante que soulèvent les sources est « est-ce que ces deux approches sont conciliables ? Peut-on avoir une IA à la fois très innovante, ouverte et en même temps respectueuse des droits fondamentaux tels que définis par l'Europe ?» Pour l'instant, personne n'a la réponse. Et cette tension est au cœur de toutes les négociations géopolitiques sur le sujet.
D'accord. Alors maintenant, quittons ces sphères diplomatiques et ces colloques un peu feutrés, parce que quand on clique sur les autres articles référencés dans la source, l'ambiance change radicalement. On entre dans l'arène et les titres sont violents. Intel face à son retard sur l'IA, Google vacille, la domination du géant remise en cause. On a l'impression que des empires peuvent s'effondrer en quelques mois.
C'est exactement ça. La hiérarchie technologique qu'on croyait gravée dans le marbre est en train de voler en éclats. Prenez Intel. Ils ont dominé le monde des processeurs pendant des décennies. Aujourd'hui, les articles expliquent qu'ils sont en retard sur les puces spécialisées pour l'IA. Et ça pourrait leur être fatal. Google, le roi incontesté de la recherche, se sent menacé pour la première fois de son histoire par des IA conversationnelles. Ce que ça nous dit, c'est que la vitesse de la disruption est telle qu'un retard de 6 mois peut vous coûter votre trône.
Et ça, c'est pour les géants. Mais le chiffre qui m'a vraiment marqué, c'est celui sur les PME françaises. 68% des PME françaises ratent la révolution. C'est énorme. Ce ne sont pas juste des empires qui tremblent, c'est potentiellement tout le tissu économique.
C'est une véritable fracture qui s'opère sous nos yeux. L'article qui cite ce chiffre s'appuie sur une enquête de BP France qui est sans appel. D'un côté, on a une petite minorité d'entreprises, souvent les plus grosses, qui ont les moyens et les compétences pour surfer sur la vague de l'IA et en tirer d'énormes gains. De l'autre, on a une immense majorité qui regarde le train passer. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe.
Et c'est ce que l'un des articles appelle la double peine numérique.
Précisément. C'est un concept très fort. La double peine, c'est que ces PME sont non seulement désavantagées par cette révolution qu'elles ne peuvent pas saisir, mais elles sont souvent aussi celles qui souffrent déjà d'autres complexités, administratives ou fiscales. L'IA vient ajouter une couche de complexité qui risque de les distancer définitivement. On assiste en direct à la fameuse « destruction créatrice » de l'économiste Schumpeter.
Expliquez-nous ça simplement.
La destruction créatrice, c'est l'idée qu'une innovation majeure agit comme un bulldozer. Elle rase des pans entiers de l'économie, détruit des emplois, des entreprises, des secteurs, pour en construire de nouveaux, plus productifs. C'est un processus puissant qui fait avancer l'économie sur le long terme. Mais le problème, c'est que pour ceux qui sont sur le passage du bulldozer, ce n'est pas de la création, c'est juste de la destruction. Et c'est cette violence économique qu'on ressent dans les titres des articles.
Et cette violence, elle a un coût humain très direct. C'est là qu'on bascule dans la section que la source intitule « Le côté obscur de l'IA ». Et là, les titres sont encore plus directs, plus personnels. Je lis « Dellfrance.com, l'intelligence artificielle devient le nouveau visage du licenciement ». C'est glaçant, hein?
C'est glaçant parce que ça rend le concept de destruction d'emploi très concret. L'IA n'est plus une idée abstraite, c'est un logiciel qui prend la place de quelqu'un. L'exemple de Dell, tel que présenté, devient un cas d'école, un symbole de cette angoisse. On passe d'un outil d'aide à la décision à un outil de remplacement. Un autre titre, l'IA, nouveau miroir des inégalités sociales, pointe vers un autre danger. Que ces technologies, loin de nous égaliser, ne fassent qu'amplifier les fractures sociales existantes.
Ça donne l'impression d'une perte de contrôle. Pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau de la société. Un autre article exprime la crainte d'une dépendance de l'Europe aux IA étrangères. On parle aussi du projet Chat Control et de la peur d'une surveillance généralisée. Les enjeux dépassent le simple cadre économique.
Totalement. On est passé des pages tech aux pages société et politique. La question de la souveraineté est centrale. Est-ce qu'on accepte que les outils qui vont façonner notre avenir soient entièrement contrôlés par des entreprises américaines ou chinoises? C'est une question éminemment politique. Pareil pour la surveillance. Le projet Chat Control, qui viserait à scanner automatiquement nos conversations privées avec une IA, pose des questions fondamentales sur notre vie privée. Le débat n'est plus « faut-il ou non de l'IA ?», mais « quelle IA voulons-nous ? Et pour construire quelle société ?»
Et pour couronner le tout, alors qu'on débat de ces questions existentielles, il y a un autre problème qui traverse plusieurs articles. On ne peut même pas faire confiance à ces machines. Un des titres m'a fait sourire nerveusement. « L'incroyable explosion des mensonges de l'IA en 2025 ». Ce n'est pas très subtil.
Non, et c'est voulu. Un autre article le dit encore plus crûment. « Arrêtez d'utiliser une IA comme vous utilisez un moteur de recherche ». C'est une alerte générale. Et ça nous amène à un concept clé mentionné dans la source, la littératie IA.
La littératie IA, c'est-à-dire ?
En gros, c'est le nouveau savoir lire et écrire, mais pour l'intelligence artificielle. On doit tous apprendre, et vite, comment ces outils fonctionnent. Une IA générative, comme celle dont on parle, n'est pas une base de données de vérité.
Ce n'est pas un oracle. C'est un système conçu pour prédire le mot suivant le plus plausible dans une phrase. Son but est de produire un texte qui a l'air cohérent, pas un texte qui est factuellement juste.
C'est ce qu'on appelle les hallucinations.
Exactement. L'article sur l'illusion du raisonnement pointe précisément ce problème. L'IA peut rédiger un email parfait, un poème, et sembler incroyablement intelligente. Mais si on lui pose un problème de logique simple ou si on la questionne sur un fait précis, elle peut s'effondrer et inventer une réponse de toute pièce avec une assurance déconcertante. Comprendre cette limite fondamentale est plus important encore que de connaître ses capacités. L'alerte est claire. Sans cette compétence critique, on va se noyer dans une vague de désinformation générée à une échelle industrielle.
Donc, pour résumer, on se retrouve avec un outil qui est en train de bouleverser notre économie, de menacer des millions d'emplois, de poser des questions de souveraineté, et en plus, c'est un menteur compulsif. Le tableau est assez sombre.
Il est complexe, en tout cas. Et c'est pour ça que la synthèse de tout ça est si difficile. Comment est-ce qu'on assemble ces pièces du puzzle ? D'un côté, les colloques sur l'éthique, de l'autre, la peur des licenciements.
Alors, comment fait-on ? Quelle est l'image finale qui se dégage de cette journée du 2 décembre 2025 ?
L'image, c'est vraiment celle de ce grand écart. Mais ce qui est fascinant et un peu effrayant, c'est que ces deux mondes, le monde des règles et le monde de la course effrénée, ne font pas que coexister. Ils sont dans une sorte de dialogue de sourds qui s'alimentent mutuellement. Les discours éthiques des institutions sont une réponse directe à l'angoisse générée par la disruption sauvage du terrain. Mais le temps de la régulation est infiniment plus lent que le temps de la technologie. Le véritable enjeu, c'est de savoir si on peut faire converger ces deux trajectoires. Pour l'instant, elles semblent diverger de plus en plus. Le fossé se creuse au lieu de se combler.
On a donc d'un côté la société qui tente de poser des balises, des règles, et de l'autre une réalité économique et technologique qui avance sans s'en soucier, créant au passage de nouvelles inégalités et de nouvelles angoisses.
C'est tout le défi. Il ne suffit pas de débattre de l'éthique dans un colloque si, dans le même temps, la technologie est déployée sur le terrain sans tenir compte de ses principes. Le véritable enjeu est d'aligner ce développement technologique frénétique avec le projet de société que nous voulons construire. Et la lecture de ces sources montre qu'on en est encore très, très loin.
On comprend donc que derrière les discours policés sur l'IA responsable se cachent des batailles économiques féroces, une anxiété sociale profonde et une méfiance grandissante. La source du jour nous laisse avec une pensée à méditer. Alors que nos institutions tentent laborieusement de dessiner les cartes et les règles du jeu, la technologie, elle, est en train de redessiner le plateau de jeu tout entier. La question n'est peut-être plus de savoir comment réguler l'IA, mais de savoir si nous pouvons encore le faire à temps. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.